Merci Alexandra et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Tu t'étonnes de ces mains de fille nouées par erreur au corps d'un homme, doigts frêles, attaches poncées, phalanges adoucies, et sous la peau trop fine pour en masquer la couleur, les veines sont enflées. La droite s'agitant au-dessus des olives et du pain, tu vois remuer un muscle vulnérable d'enfant qui bientôt tremble quand il soulève la carafe. Tout ceci est très fragile et pourrait se briser dans un geste un peu vif. Tu penses qu'il serait incapable de t'étrangler. Tu notes les ongles limés courts, l'annulaire sans alliance ni trace d'œufs, les extrémités blanches, exsangues et presque mauves. Chez lui, le retour du sang au cœur se fait mal et par à coup. Entre la malléole et le drap sombre du costume, tranche 2 cm de coton épais, immaculé. C'est le début du nouveau livre de Maria Pourchet intitulé « Feu » que je viens de vous lire ce soir. Elle est notre invitée, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et pour elle, mais aussi pour nous, Véronique Sanson, amoureuse.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil.
Vous aimez les loups, Maria Pourchet ?
Ah, ça commence fort. Oui. Oui.
Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il tellement de loups ?
Alors,
dans vos romans,
c'est un animal qui m'a toujours fascinée. J'en ai jamais fréquenté de près des loups, heureusement, mais cette capacité à prendre 1000 décisions en une seconde, à savoir toujours où ça va, à se protéger soi-même, à protéger les siens, à hurler en bande, à hurler quand il faut. Je ne sais pas. Ça me fascine cet animal.
Les livres, vous les avez connus à l'intérieur de l'espace familial ou dans les bibliothèques?
Un peu les deux, dans l'espace familial et puis rapidement il n'y en a pas eu suffisamment, donc dans les bibliothèques. Mais c'est mes parents quand même qui lisaient beaucoup, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de...
Pourquoi il n'y avait pas de télé?
Ah, c'était une des convictions éducatives, c'était assez militant chez eux, c'est des choses qu'on a entendues souvent sur ce qu'on appelait à l'époque la culture de masse, où ils avaient l'impression que c'était le vecteur d'une culture qui n'était pas patrimoniale, pas raffinée, pas... Voilà, donc il y avait un tourne-disque et une bibliothèque.
Vous étiez bonne élève ?
Pas particulièrement.
Pourtant, vous aviez intérêt à l'être avec les parents que vous avez.
Oui, mais j'avais d'excellentes notes en français et en histoire, dans tout ce qui nourrissait un peu l'imaginaire. Mais je travaillais pas, en fait. Je lisais beaucoup trop pour pouvoir travailler. Je m'imaginais que la lecture serait suffisante pour assurer... mon éducation, ma culture, mes humanités.
Ben vous n'aviez pas tort.
J'avais pas complètement tort, finalement.
Lire, c'est vivre.
Ah, non, ça l'est pas dans l'absolu, mais pour moi, ça l'a été longtemps. C'est un excellent substitut. Quand le second est difficile, lire est un excellent substitut.
Nous allons vous faire écouter la voix de quelqu'un qui, semble-t-il, a été le déclencheur de votre destin d'écrivaine. Maria Pourchet, c'est Romain Gary. Il semble que, je sais pas si cette histoire est vraie, mais si elle est vraie, en tout cas, elle est magnifique. Il semble qu'un jour, vous soyez entré dans la voiture de votre père et qu'il y avait un livre qui vous attendait dans la boîte à gants, c'est bien ça?
C'est exactement ça, ouais. Que j'ai encore, c'est une édition poche des Enchanteurs. Et il est allé faire je sais pas quoi et je suis restée dans la voiture un peu trop longtemps. Et j'avais pas l'âge de prendre ce livre, je l'ai pris une première fois et je l'ai commencé, mais il m'a brûlé les yeux. Donc ça a été vraiment quelque chose d'organique, quoi. La lecture des premières pages de ce livre, je ne sais absolument pas dans quoi j'entrais. C'est l'histoire de Fosco Zaga qui regarde le feu chez son père et qui voit des choses dans le feu que moi-même, enfant, je pensais voir aussi dans le feu. Et tiens, votre question me fait penser que le feu, voilà.
Le livre s'appelle Feu, le dernier.
Et donc, j'ai rangé les Enchanteurs dans la boîte à gants et je l'ai retrouvé, pas dans cette même boîte à gants, mais dans quelque part chez moi, quelques années plus tard. Et là, il a été...
Ah, parce que vous l'avez volé à votre père, le livre de Romain Gary.
Je l'ai remis dans la boîte à gants. Je pense que j'étais trop jeune pour lire ça à ce moment-là. Je me rappelle, c'était une 205 blanche, la voiture en question, donc tout ça date. Et ensuite, je l'ai retrouvé vers 17-18 ans.
Et nous allons entendre la voix de celui qui a déclenché votre vocation.
Merci.
Il s'appelait Romain Gary. Il va parler de sa pratique de l'écriture. C'était au micro de Jacques Chancel et c'est une archivina du 10 juin 1975.
Je ne me suis pas préoccupé.
Vous êtes monstrueux.
Comme écrivain, il y a un côté monstrueux, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle peut-être le monstre sacré. Je ne me suis pas préoccupé en écrivant un roman de témoigner, d'améliorer le monde. C'est probablement mes illusions ou des excuses que je me donne. Mais il y a un besoin de créer. J'éprouve le besoin de créer comme probablement Picasso l'éprouvait. Il y a de temps en temps des rencontres profondes avec des grands courants idéologiques de préservation de la nature, comme dans les racines du ciel, une passion de la liberté ou tout ce que vous pouvez mettre dans ou trouver dans mon œuvre. Mais la fonction première est de créer. Et je peux le prouver. Je n'ai pas la moindre idée, vous m'entendez Jacques Chancel, quand je commence un roman, de quoi je vais parler. Je n'ai pas la moindre trace de plan, de canevas, de personnage, de quoi que ce soit.
Même pas un scénario dans votre
tête.
Rien.
Je parle du mouvement de la parole.
Plus que de l'écriture.
Oui, la première fois, très souvent, je dicte. Et l'œuvre vient du mouvement. Et c'est seulement peu à peu, en me racontant l'histoire, que je découvre ce que je veux dire. Quelquefois, cela m'oblige à revenir au début et à recommencer le tout.
Vous faites pareil, Maria Pourchet. Vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Pourtant, quand on lit tous vos romans, parce que je crois que celui qui paraît ces jours-ci, c'est le cinquième roman.
Ouais, cinquième roman.
On a l'impression que vous savez très bien où vous allez et où vous allez nous emmener, nous, lectrices et lecteurs.
Alors oui, je sais de qui je vais parler, parce que je les ai vus, il y a souvent des images ont surgi. Je suis d'accord avec Gary, j'allais dire avec Romain. Je suis d'accord avec Romain, Gary. À propos du mouvement, que l'écriture procède du mouvement. Elle procède effectivement, oui, vraiment du mouvement physique, déjà. Moi, j'ai vraiment besoin de me déplacer pour commencer à écrire. Et du mouvement qui va être la liberté des personnages, du mouvement de la parole. Elle procède de la musique qu'on entend au moment qu'on choisit d'écouter au moment où on écrit. Elle procède des lieux où on va écrire. Donc tout ça, oui, moi je suis complètement d'accord avec ça, mais davantage que lui, oui, je suis un tout petit peu plus scolaire. Je sais, oui, de quoi je vais parler. Là, je savais que je voulais écrire un roman sur la passion. Je ne savais pas qu'il allait s'appeler Feu, mais je savais qu'il y avait cet homme et cette femme qui avaient ces 10 ans d'écart, qu'elle parlerait à la seconde personne du singulier et lui à la première. Voilà, je savais ça, mais c'est déjà beaucoup.
Vous avez parlé tout à l'heure de feu, du feu, du fait que quand vous étiez petite, vous y voyiez des signes. Et vos romans sont toujours imprégnés par une sorte de superstition. Il y a toujours une interprétation de ce qui va être décrypté à l'aune de la passion amoureuse ou des ennuis familiaux, etc. Vous êtes superstitieuse, vous croyez aux signes dans la vie ?
Il m'arrive de l'être, mais je pense que c'est plutôt un signe de détresse chez moi quand je commence à chercher dans la forme des nuages ou dans le nombre des feuilles du trèfle, des convictions sur ce qui va m'arriver. Mais pas plus que ça. En revanche, j'ai comme beaucoup de gens des réflexes un peu lacaniens, c'est-à-dire que je vais faire très très attention aux lapsus, les miens, ceux des autres. Mais je crois pas que c'est de la superstition, c'est plutôt une mécanique intellectuelle qui fait que je vais... Si telle est votre question, ou si c'est dans mes livres, les personnages font ça, ou c'est ça ?
Ils sont hantés par l'obsession de comprendre la réalité autrement qu'elle se présente. Ouais. Il y a toujours autre chose qu'il faut essayer de comprendre.
Oui, c'est vrai. Alors ça vient vraiment de Romain Gary. C'est que les Enchanteurs, c'est presque une théorie du roman, où il explique que... le réel est une donnée, en gros, et que libre à nous, et enfin libre à ceux qui en ont le talent, comme le Foscosaga, l'enchanteur dont je parlais, de le réinterpréter. C'est le principe de l'enchantement, de proposer autre chose jusqu'à être absolument éternel, jusqu'à ce que les amours ne meurent pas, jusqu'à ce qu'on triomphe de tout.
À quel âge avez-vous proclamé, je dis pas penser à l'intérieur de vous, je dis proclamer, le fait que vous deviendriez un jour écrivaine?
Ah, ça c'est très tôt, je savais même pas écrire. C'est entre 6 et 7 ans, en écoutant... pas écrivain, mais que j'écrirais. En écoutant c'est la chanson à texte qui m'a... Je sais pas, j'étais très touchée que vous commenciez par Véronique Sanson. Mes parents écoutaient beaucoup de je sais pas, Reggiani, Grim Allwright, j'en oublie. La beauté de la langue, mais d'abord, les possibilités du français me sont apparues déjà comme ça. Et je trouvais... Voilà, donc je voulais écrire des textes. Je ne savais pas lesquels. C'était de la poésie, des films...
Vous auriez pu devenir chanteuse.
Je ne suis pas sûre d'avoir la tessiture requise. Non, je chante pas juste. Mais j'aurais bien aimé écrire des chansons.
Votre recherche, c'est trouver la langue des personnages que vous inventez.
Ouais, exactement.
Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous les inventez ou si vous les observez. Dans la vraie vie, pour ensuite les retranscrire.
J'ai le sentiment qu'ils m'arrivent, alors qu'ils peuvent m'arriver à travers des corps réels, mais j'ai l'impression qu'ils s'imposent à moi davantage que je les invente. Et après, il s'agit de leur trouver une naissance, une langue, avant tout, vous avez raison, et ensuite une histoire.
Que veut dire être écrivaine aujourd'hui, en 2021 ?
J'ai le sentiment d'être à ma place, au regard de la promesse que j'avais faite à la petite fille... que j'avais faite à mon père aussi, parce que mon père lisait beaucoup et il aimait beaucoup aussi Romain Gary. Et le fait que j'aime Romain Gary et Jean Giono, enfin les mêmes auteurs que lui d'ailleurs, l'avait beaucoup touché. Et j'avais, dans un, je sais pas si c'était un aspect de l'Oedipe ou je sais pas trop quoi, mais ça a commencé par une promesse à mon père, mais moi aussi je serais écrivain.
C'est drôle que vous parliez de votre père, parce qu'il y a un de vos livres qui est écrit sous forme d'une lettre d'une mère qui vient d'accoucher d'une petite fille et qui écrit à sa fille pour lui expliquer à quel point son enfance a été saccagée, sa propre mère a ruiné ses illusions. Et là, vous parlez de votre père, alors qu'on a l'impression, dans tous vos livres précédents, à part certains, qu'effectivement, le poids de la mère est plus important que celui du père.
Il était, en tout cas, c'était plus important. Il fallait que je m'en déleste davantage et avec plus d'urgence que le père. Je sais que c'est deux mouvements. Je sens que c'est deux mouvements que je vais rencontrer dans mon écriture, effectivement, même si c'est presque stéréotypé. On se dit, bah ouais, il faut dégager la mère, puis après, il faut dégager le père. Je sais que je vais précisément faire ça. Et dans l'ordre mère-père.
En tout cas, dans tous vos précédents romans, et de manière absolument magnifique dans le dernier, intitulé Feu, vous trouvez des langues à vos personnages. Et chaque personnage ne parle pas la même langue que l'autre, avec un grand A. Comment avez-vous inventé ce dispositif d'écriture qui existe déjà dans vos livres précédents ?
Ça, le comment, c'est très très compliqué. Je ne sais plus qui a dit qu'il y avait, parfois dans l'écriture, il y avait presque quelque chose de l'ordre du chamanisme, où encore une fois, on est le vecteur de quelque chose qu'on ne comprend pas. Vraiment, je ne sais pas. Je crois que quand les personnages s'incarnent, vraiment s'incarnent, quand je sais d'où ils viennent, quand je commence à voir comment ils réagissent, etc., leur langue s'impose. Il y a ceux qui ont de l'humour, ceux qui n'en ont pas. Là, l'or, elle est plus lyrique, elle est à la fois lyrique et romantique, mais c'est aussi une intellectuelle, donc les deux mouvements se corrigent. Clément, il est désespéré, donc il a eu besoin d'énormément d'humour pour compenser la vacuité qu'il ressent, donc il a de l'humour. Il est dans un milieu, dans un exercice professionnel, il a une formation intellectuelle qui prédispose au cynisme, donc tout ça emprunte sa langue. Je crois que je suis un peu schizophrène et qu'il y a des voix intérieures qui se répondent en moi dès que je me mets à écrire. Là, les voix intérieures, elles sont même littérales, elles interviennent littéralement dans le texte avec la voix de la mère et de la grand-mère. Je les entends comme telles. Rapidement, quand je suis entrée dans un livre, je les entends.
Donc cette schizophrénie, vous l'assumez comme méthode d'écriture. Il y a plusieurs Maria Pourchet, il y a plusieurs voix à l'intérieur du cerveau de Maria.
C'est ça, oui. Et depuis un moment, d'ailleurs. Et je pense que si j'en avais rien fait, je sais pas où je serais, mais il y a un concert.
Dans un livre précédent, intitulé « Toutes les femmes sauf une », vous faites dire, je vous cite, Maria Pourchet, « Chez les animaux que nous sommes, fous du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue ». Qu'entendez-vous par là ?
La catastrophe de la langue, c'est ce qu'on entend. Je crois qu'un peu plus loin, la narratrice dit quel est le crime parfait du langage, quelle est la somme des phrases que les femmes lui ont adressées pour la limiter dans ses comportements, dans ses envies, dans ses désirs d'émancipation, de réalisation, enfin en tout cas qu'elle a entendu comme telle et qui ont fonctionné comme une prison. Toutes les injonctions à ne pas faire, à ne pas trop en montrer, à ne pas trop parler, à ne pas trop la ramener, à ne pas trop s'imposer, à rester à sa place, toutes ces choses-là. Et au moment où la narratrice écrit, c'est quelqu'un qui reste à sa place jusqu'à être dans un trou, et en tout cas frôler le trou. Et la catastrophe de la langue, c'est ça, c'est que la langue peut être porteuse d'une violence symbolique absolument inouïe, d'autant plus qu'elle est silencieuse, qu'elle peut durer extrêmement longtemps. Enfin, ça m'a... Moi, j'ai souvent été victime de la langue des autres, enfant. Et c'est peut-être une façon de retourner la langue en enchantement que d'écrire. Je pense que c'est cette langue-là qui a été blessante, je l'ai retournée en... J'en ai fait une mère pour moi, en la retournant dans les livres.
Alors, elle aussi, elle entendait des voix. Elle aussi, elle voyait des personnages fictifs, mais elle les voyait concrètement dans son espace de vision. Elle leur parlait. Et quand ces personnages fictifs étaient un peu trop dans son champ de perception, eh bien, elle les déployait sur l'espace de la page d'écriture. Je veux parler de Marguerite Duras. Marguerite Duras, que nous allons entendre à propos de l'amour, c'est une archive INA du 24 novembre 1986. Et ensuite, nous entendrons Marguerite lire un extrait de son livre « L'amant ».
C'est ce qu'il y a de plus important à écrire, l'amour ?
Oui. Ce qu'il y a là aussi, c'est que c'est un... petite histoire qui aurait pu arriver, qui est arrivée sans qu'on l'ait su, mais qui était là. Je suis peut-être la seule à le savoir, mais je le sais. Oui, je crois que je suis la seule à le savoir. Il y a quelqu'un qui le sait aussi, mais pas moi.
Il entre dans le hall de son père rapide. Il voit le voyageur assis sur un fauteuil le long du mur. Il dit « Je passais ». Il ajoute « Je ne viens jamais de ce côté-là ». Il se pose, il regarde. Brusquement, il voit le hall. Tout autour de lui, le hall. Il le regarde. Ses yeux brillent. L'obscurité est presque totale. Il regarde comme en plein jour, longuement.
Nous venons d'entendre Marguerite Duras qui parlait d'amour au moment de la publication de L'Amant. C'était au micro d'Alain Weinstein. Et puis ensuite, cette courte lecture de L'Amant. Et évidemment, on pense à Marguerite Duras quand on lit votre dernier ouvrage, Maria Pourchet. On pense aussi à Annie Ernaux, que nous allons entendre aussi tout à l'heure. On pense à votre matière qui est l'écriture, on pense à ces deux personnages que vous avez inventés ou que vous avez peut-être pas inventés, mais ils sont si bien campés, si j'ose dire, et ils parlent chacun leur langue sans avoir de langue commune, qu'on se dit, évidemment, votre instrument de musique, c'est l'écriture, mais votre sujet, c'est l'amour.
Dans ce livre, oui.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, oui, c'est vrai, mais ça, c'est la première fois que c'est mon sujet aussi frontalement, de manière aussi proclamative, mais oui, c'est mon sujet depuis longtemps. Ouais.
Alors l'amour, c'est un mystère, l'amour, ça vous tombe dessus, l'amour, c'est une lumière. Duras vient de dire, c'est un secret, il n'y a que moi qui le sais, mais peut-être l'autre, mais peut-être qu'il ne le sait pas vraiment.
Ouais.
Vous comprenez ses propos ?
Ah ouais, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, oui. Oui. Alors, en tout cas, ça fait émerger des. Dans ce qu'elle disait, j'entendais, il y a une sphère temporelle où cet amour-là a lieu et a eu lieu. J'ai compris ça. Et que le livre est l'expression de ce quelque chose que personne n'a jamais su. Au-delà de. Oui, j'entends vraiment ça. J'entends que ça a eu lieu quelque part. Et peut-être dans un espace-temps produit par l'imaginaire de deux amants qui ne se sont jamais rencontrés ou qui se connaissaient. Et c'est ça que je voulais dire quand la littérature, quand je parlais des enchanteurs, je voulais dire ça, l'écriture ouvre la perception à ces sphères temporelles-là qui finissent pour nous par être aussi réelles que le réel ordinaire et usuel. Et je trouve que les deux archives, enfin les... Là, sur ce plan-là, Gary et Duras se répondent très bien.
Mais y a-t-il un processus imaginaire, comme dans Marguerite Duras ? Marguerite Duras a pratiqué les deux registres. Dans L'Amant ou dans L'Amant de la Chine du Nord, elle a restitué avec des décennies de distance une histoire qui lui est arrivée, qu'elle a, entre guillemets, alchimisée.
Oui.
Et puis elle a aussi inventé des histoires d'amour ô combien poignantes, comme dans Le ravissement de l'Olvestein. Vous, est-ce que vous procédez par imaginaire, par observation, ou par un pacte autobiographique avec quelque chose qui vous serait tombé dessus ? Tombée amoureuse. On dit tombée
amoureuse. Ah oui, dans ce livre-là, Feu, il y a... Alors, cette histoire-là ne m'est pas arrivée, Je suis un peu dans les personnages, dans les deux d'ailleurs. Ma langue la plus familière est plus celle du qui dit je, plus celle de Clément. Et sous certains aspects, les émotions traversées par l'or, je les ai ressenties. Il y a dans ce livre chaque fois que je suis tombée amoureuse, vraiment. Et c'est pour ça.
Combien de fois êtes-vous tombée amoureuse, Maria ?
Combien de fois je suis tombée amoureuse ?
Tellement de fois que vous ne vous souvenez pas.
Non, mais je, avec le temps, l'appréciation de ça, ça change. Parfois, je dirais trois fois. Mais après, il y a eu des passions. Mais vraiment tombée amoureuse au sens organique du terme, c'est... Oui, trois fois.
Alors, tomber amoureuse dans le sens organique du terme, ça veut dire quoi ?
Ah bah, quand le corps est réquisitionné par... Elle laisse totalement le cerveau gauche de côté et réquisitionné par la sensation, qu'on devient presque un état animal, brut. On n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin de dormir. C'est ça. Tomber amoureuse, c'est ça. Et puis après, ça se mue en autre chose, de plus, heureusement, de plus vivable. On parvient à habiter à nouveau son corps, son cerveau, sa maison, son... Mais tomber amoureuse, c'est ça, ouais.
Et la passion ?
Bah, c'est ça. C'est le premier état de l'amour. Pour moi, en tout cas, tel que je l'ai vécu, c'est la passion, c'est ce premier état-là qui ne peut pas rester comme tel, qui ne peut que brûler d'elle-même, plus ou moins vite, et qui donne lieu soit à l'attachement, soit à rien, selon qu'on s'en préserve ou que l'autre s'en préserve. Mais c'est pas dissociable. On pose souvent cette question, les différences entre la passion et l'amour, mais si l'amour est un processus, il a des états successifs, et là, dans le meilleur des cas, dans les amours les plus incendiaires, les plus forts, ça commence par la passion.
Et l'amour fou ?
L'amour fou, j'imagine que l'amour fou... Ça, je suis pas très familière de cette expression. L'amour est nécessairement fou puisqu'il nous fait oublier nos conditionnements, notre surmoi, les promesses qu'on s'est faites, certains serments. L'amour fou, j'imagine que c'est celui qui nous porte à l'autodestruction, par exemple.
Vous en êtes une orfèvre.
Ah bon? Merci.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Maria Pourchet, Edgar Novak, Alone in the Blizzard.
Alone in the blizzard, waiting for the man. A sort of calypso dances in my hand. My mind's kinda singing and my body's numb. I wish that my time would come. I just wanna live there in this dreamy place. I'm young and I'm proud and finally life is a game. It's a fantastic time for the American states. I get one for you someday. For a man is a man. He needs a medicine man to help him being a man. My medicine man. Alone in the blizzard, waiting for men. My calypso's danced to another land. My mind's kinda singing and my body's numb. I wish that my time would come. I won't die here, no, I surely won't. I'm too young for being just a morning call. Such a fantastic time for the American states. I get one for you someday. For a man is a man. He needs a medicine man to help him being a man. A medicine man. Alone in the morning, don't feel the pain. Dancing with Calypso under the rain. My body's still, my body's lame. My man didn't come and relieve my pain. And near my body, newspaper says, it's a fantastic time for the American states. Alone in the blizzard, waiting for the man. A sort of calypso dances in my hand. For a man is a man. He is a medicine man. He helps me being a man. My medicine man. He helps me being a man. My medicine man. Helps me being a man, a medicine man.
J'ai écrit cette page peut-être en 2 heures, et comme ça, avec des surcharges. des mots dans la marge. Il y a des reprises, puisque là, il y a écrit pendant un an, je n'ai rien écrit. Et puis je m'arrête. À partir du mois d'octobre, je n'ai plus rien fait. Et je rajoute qu'attendre. Mais à la fin, je recommence. Je n'ai fait qu'attendre des rendez-vous avec un homme. Ça, c'est vraiment le premier jet. Là, c'est... Je réécris la même page. Je ne sais pas combien de temps il y a entre les deux. Et c'est beaucoup plus net. Alors, à partir du mois 2, je ne mets pas de moi là. Je n'ai plus rien fait qu'attendre un homme, qu'il me téléphone ou qu'il vienne. À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements en pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant. Mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. Très curieusement, lorsque c'est écrit et qu'un certain temps est passé entre le moment où j'ai écrit et le moment où c'est publié, ce délai-là rend possible la publication comme si c'était quelqu'un d'autre qui a écrit les choses. Très souvent d'ailleurs, je pense que ce délai-là, il est semblable à la mort. C'est-à-dire que un jour, je ne serai plus là. Un jour, la lecture, ce qui sera la lecture de mes livres, se fera en mon absence. Et quand je publie, je suis déjà absente, d'une certaine façon.
Nous venons d'entendre la voix d'Annie Ernaux, c'était au moment de la publication de Passion Simple. Évidemment, on pense à Passion Simple quand on lit votre livre, Maria Pourchet, intitulé Feu. Et cet entretien était extrait du film Histoire d'écrivain, réalisé par Timothy Miller, c'était en 2000. Depuis ce livre, Passion Simple, magnifique hymne à l'amour, à la cristallisation de l'amour, est devenu aussi un film qui est aussi très intéressant. Et quand on lit Feu, Maria Pourchet, on se dit que vous êtes peut-être la fille d'une certaine façon d'Annie Ernaux, sauf que Annie Ernaux, elle a noué un pacte autobiographique avec chaque lectrice, chaque lecteur. Elle raconte ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire un véritable arrêt d'elle-même. Elle attend tout le temps. Elle attend de voir son amoureux, et quand il ne vient pas assez vite, le temps se dilate. Tandis que vous, y a deux personnages, il y a une femme et un homme. Eux, ils n'attendent pas, parce qu'ils sont, si j'ai bien compris votre livre, ils sont dans le mouvement de l'amour, avec ses règles, avec ses rythmes, avec ses tempos, ses crescendo et ses decrescendo.
Oui, exactement. Alors, parfois ils attendent. Laure, quand elle attend, elle attend pas longtemps. Elle a tellement compris l'immobilisme de son amant et peut-être des hommes en général. Aujourd'hui, cette inquiétude de faire mal, d'aller trop vite, de pas dire le bon truc, de pas tenir la porte assez longtemps, de pas, donc elle le fait à leur place, et quitte à se blesser. Donc elle n'attend pas longtemps, et quand elle attend, elle meuble tellement l'attente par le fantasme qu'il n'y en a pas, en fait, que ça va encore plus vite, que ça concentre l'histoire, que ça concentre ses passions, ses humeurs, ses émotions. Donc l'attente qui devrait être vide, en fait, il y en a pas pour elle. Il y en a davantage que pour Clément, puisque la vie semble être une antichambre, vraiment pour lui, enfin quelque chose dans lequel il patiente et puis il aimerait bien que ça s'arrête. Donc lui, il n'est qu'attente, il est suspension.
Oui, il est qu'attente, mais il est attente de quoi? Il est attente de quelque chose qu'il a obstinément raté depuis qu'il est au monde. Il est en attente de devenir quelqu'un d'autre qui n'a pas le courage de devenir. Et à un moment, il pense que peut-être il va pouvoir devenir ce qu'il souhaiterait être, puisque, j'allais dire un gros mot, puisqu'il subit, entre guillemets, l'amour de votre narratrice qui s'appelle Laure. C'est elle qui va vers lui.
Oui, il le
suit. Ça aussi, c'est un signe des temps que nous vivons.
Oui,
lui, c'était pas possible, il y a 30 ans ou 40 ans, qu'une fille aille déclarer. Enfin, ça devait arriver, mais aujourd'hui, les filles osent déclarer leur amour.
Oui, dans ce nouveau paradigme, c'est à la fois possible et à la fois nécessaire. C'est vrai que je me souviens qu'on entendait beaucoup le terme allumeuse à une époque. Et là, donc, c'est-à-dire.
Nous sommes toutes des allumeuses et nous le revendiquons.
Mais là, l'allumeuse, c'est Clément. Il allume simplement le feu, puis après, il le fuit. Et il l'allume un petit peu. Légèrement.
Enfin, il dragouille.
Il dragouille à peine, c'est ça. Et puis
non, mais c'est elle qui tombe amoureuse.
Et qui allume
le feu.
Elle nourrit le feu. Elle le nourrit beaucoup plus que. Moi, j'ai l'impression que la première étincelle, c'est lui. C'est l'allumeur. Et que celle qui fait partir l'incendie, qui décide que ça va flamber, c'est Laure. Mais elle y va vraiment. Elle va face au feu, elle le traverse. Alors que lui. Lui, il met un petit truc, une petite goutte de combustible et il s'en va.
Lui, il n'est pas très content que l'amour lui tombe dessus. Certes, il aime Laure, mais elle est un peu encombrante, surtout quand on est célibataire endurci et qu'on a un chien qu'on aime.
Oui.
Entre le chien et elle, il choisit quoi ?
Ah bah alors sans tout déflorer, il choisit le chien, il choisit la solitude parce que c'est la seule rassurance qu'il connaisse, c'est le seul confort qu'il connaisse, et il n'a jamais connu que ça. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a jamais connu que la vacuité, que le manque, puisqu'il il parle beaucoup de sa mère, il n'a été a priori aimé par aucune femme auparavant. Mais toujours est-il que c'est cette part manquante, c'est lui, c'est ce qu'il connaît. Et risquer l'équilibre, quelque part, qui est le sien, le risquer au feu que lui propose Laure, c'est trop.
Je vais vous citer. Réveil en âge, j'ai pas entendu sonner France Inter et papa s'énerve déjà depuis un moment, chacun avec ses moyens. J'ajoute, pour les auditrices et les auditeurs, que papa c'est le nom du chien. J'ai encore rêvé des oiseaux au pas de salle, ça fait deux fois, on peut compter sur une marée noire avant la fin du mois. Cet hiver, j'ai rêvé d'un 0-0 entre Marseille et l'Olympique Lyonnais, c'est arrivé le soir même. J'ai pas fait les 30 mètres qui séparent de mon lit de la cafetière que j'ai commencé de plein pied ma journée de merde. Et là, on se dit, Maria Pourchet, que vous êtes une écrivaine de l'amour, vous êtes une écrivaine de la langue française comme habitus de notre rapport au monde. Vous aviez publié il y a quelques années un livre qui était le fruit d'une observation sociologique du monde de l'entreprise, car vous avez été sociologue et vous analysez et vous cartographiez le réel. Et une des questions qu'on se pose en lisant votre livre, qui est très addictif, c'est est-ce qu'on est tellement imprégné par la propre langue qu'on s'est construite que finalement on devient la langue qu'on parle au lieu d'être cette personne qu'on voudrait être?
Ah, c'est vaste sujet. Je fais plus la différence. Je vis tellement dans la langue que... Ce que vous voulez dire, c'est que...
Il est assujetti à sa propre langue, à la langue de l'entreprise, à la langue du 440, à la langue de...
En tout cas, oui, il essaye d'y échapper. Il essaye parce qu'il en a conscience de ça. C'est quelqu'un de supérieurement intelligent.
Oui. Mais il est dominé par la langue du capitalisme.
Oui, elle le broie. Oui, elle est. Cette langue, pas seulement le verbe, hein, cette langue en termes de comportement, de langage paraverbal, la langue c'est très vaste, c'est tout le champ de communication entre les êtres.
Et puis comme il est trader, il donne des ordres, les phrases sont très courtes, il donne des injonctions, la langue n'est pas faite pour déployer sa propre sensibilité, il ne sait plus l'utiliser.
Elle est faite, même on le voit quand il se fera virer, elle est faite pour détruire, elle n'a même pas de... Et là, elle a un peu la même structure, cette langue-là, que... Vous savez, à un moment, il décrit la tour de verre et il dit qu'il touche plus terre parce qu'il y a tant de mètres de climates de gaine, de climatisation, il y a le métro, il y a tant d'étages, il y a tant de mètres de moquettes polyamides, il y a tant de mètres d'air, mètres cubes d'air, etc., etc. Bah, cette langue-là, c'est ça. Elle est totalement... Elle est hors sol, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas... Elle se sert des corps qui la parlent comme un vecteur, mais elle est glace, quoi. Elle est glace comme un vent froid, et il est exactement Je le perçois à mesure que vous le dites, d'ailleurs. Il est exactement, lui aussi, comme la victime de cette langue, ouais, c'est vrai.
Il n'a pas la langue de l'amour, il n'a pas les mots de l'amour.
Non.
Il n'a pas le corps de l'amour.
Non, mais parce qu'il n'a pas été materné. C'est pas seulement le déterminisme de ça, ce n'est pas seulement l'endroit où il évolue, c'est pas seulement la finance, il ne vient pas de l'amour. J'ai toujours été frappée par la différence entre les gens qui viennent de l'amour et ceux qui n'en viennent pas. Le fait d'avoir...
Vous le sentez, vous le percevez dans la vie.
On les repère à l'œil nu, dans justement une façon de parler.
Même dans un café.
Non, pas dans un café, il faut quand même parler, il faut quand même créer une interaction. Et au bout de quelques temps, oui, on peut séparer les gens qui ont été, je trouve. Oui. Oui, quand vous parliez des loups tout à l'heure, typiquement, les loups, ils se reconnaissent entre eux. Mais il y a un truc de loup entre les gens qui... Ils se repèrent entre eux.
Et vous êtes un enfant de l'amour ?
En partie, oui.
Ah ! C'est pour ça que vous pouvez écrire si bien sur l'amour.
Peut-être. Je découvre que je sais le faire. C'était pas prévu. J'en avais toujours eu envie, mais j'attendais de vieillir. J'attendais d'avoir...
Vous avez quel âge ?
J'avais 40 ans, mais j'ai 40 ans. Mais quand j'ai commencé à écrire, je pense que c'est ces sujets-là qui me... Romain Gary, vous parlez de Duras, Le Wettstein et l'amant, ça a été important comme lecture. Pour moi, Romain Gary, il ne parle que de ça. Il ne parle que de son amour universel pour l'humanité. C'est de ça que je voulais parler. Et je suis allée au départ dans des formats un peu plus secs, un peu plus mental, un peu plus minéral. Mais parce que j'avais peur. Et puis surtout, j'avais pas assez à dire. J'étais pas assez calcinée moi-même par...
Votre langue est assez particulière pour dire cette passion amoureuse. Elle est sèche, elle est rapide, elle est incisive, elle est faite de presque de commandements à soi-même ou à l'autre, ou au désir de l'autre. L'amour est-il pour autant désintéressé, selon vous, Maria Pourchet, parce que votre narratrice, Laure,
Non.
Va le prendre, lui, comme proie ?
Non, on attend toujours quelque chose, je crois, d'un amour, qu'on en soit conscient ou non. L'amour désintéressé, il serait donc quasi religieux. Je pense qu'on peut l'atteindre. On peut l'atteindre à un moment. Mais après, beaucoup, ça doit être le dernier état de l'amour. Mais en général, on s'en va avant, surtout dans le monde contemporain qui est celui de la rupture, du cancel, on peut effacer rapidement, passer à autre chose, atomiser.
Donc, passer à autre chose qu'à l'amour ?
Non, mais passer à un autre amour. Donc cet état ultime de l'amour désintéressé, il est rare. Et je pense qu'il est très rare.
L'amour est plus fort que la mort, c'est ce que dit l'Ecclésiaste.
Oui, ça me parle complètement, ça. Oui, c'est une énergie plus forte, ouais. La mort, ça fait partie du monde terrestre. C'est l'éradication du corps, mais on peut. Je ne vois pas pourquoi l'amour ne survivrait pas à l'extinction des organes. Oui, je vois tout à fait ce que ça veut dire. Dans une perspective chrétienne, ou biologique, ou mystique, je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais.
Maria Pourchet, vous inscrivez dans une lignée de femmes qui ont écrit sur l'amour. Parmi elles, il y a Simone de Beauvoir, notamment dans La femme rompue. Nous allons l'écouter. C'était au micro de Célia Minard et c'est une archivina du 1er janvier 1969.
Lorsque vous avez publié il y a quelques mois La femme rompue, la critique, non pas les lecteurs, mais les critiques, ont paru ne pas comprendre le propos de ces trois récits. Et il me semble que si cet ouvrage était relu aujourd'hui, on saisirait parfaitement à quel point il est le prolongement direct du deuxième sexe, n'est-ce pas ?
Ça, certainement. Je ne crois pas que là, ce soit les événements qui l'éclaireraient, mais je pense que si simplement, d'ailleurs, les critiques l'avaient une première fois bien lu, au lieu de le lire avec hargne et morosité... Eh bien, ils l'auraient compris. Je crois qu'ils ne l'ont pas compris précisément parce qu'ils n'aiment pas, la majorité d'entre eux n'aiment pas le deuxième sexe. Parce qu'en France, les hommes ont encore une idée très forte de la suprématie de l'homme sur la femme. Et par conséquent, un livre qui disait je ne dirais pas le contraire, mais enfin qui plaidait pour l'égalité de la femme et de l'homme, n'a pas été aimée du tout. Et du coup, je ne suis pas du tout aimée par un très grand nombre de critiques français. Et ils ont pris prétexte de ce que je reparlais des problèmes féminins pour de nouveau m'attaquer comme jamais je n'avais été attaquée en somme depuis le deuxième sexe. Ce n'est pas hasard si de nouveau ces nouvelles, ces courts récits qui traitent de problèmes féminins ont été beaucoup plus attaqués qu'aucun des livres que j'avais écrits depuis le deuxième sexe. Parce qu'en effet, ce sont les mêmes problèmes, le problème de la femme vieillissante, le problème de la femme qui se ment elle-même, le problème de la femme qui ne vit qu'à travers un homme et l'amour d'un homme et qui est complètement brisée alors le jour où cet amour lui est refusé parce qu'elle n'a pas de vie autonome, elle n'a pas de travail personnel. Une fois que ses enfants sont partis et que son mari ne l'aime plus, il lui reste absolument plus rien.
Nous venons d'entendre Simone de Beauvoir. On voit que les temps ont bien changé et grâce à vous et grâce à feu, Maria Pourchet, eh bien, les femmes ont une langue, les femmes ont une détermination, les femmes suivent leurs désirs, les femmes composent avec la réalité, les femmes sont douces tout en étant violentes dans la revendication de leur amour, mais elles gardent une certaine bienveillance vis-à-vis des autres. Et dans ce livre Feu, on va pas tout raconter, vous en avez déjà dit beaucoup, mais il y a une sorte d'acceptation de son propre désir au féminin tout en ne cassant pas la baraque pour tout le monde.
Oui, c'est merci beaucoup pour ce résumé. Oui, c'est vraiment la définition de l'amour, telle que Laure l'éprouve. Elle ne veut pas se détruire elle-même, parce que elle a, au regard de Clément, elle a quand même beaucoup d'amour propre. Elle en a plus que lui. Et elle ne veut pas se détruire elle-même. Elle veut faire mieux que les femmes précédentes, qui ne pouvaient pas. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la réparation vis-à-vis de la matrilinéa. Elle peut sans. Aussi, il y a des choses qui vont la limiter. Elle parle du complexe de classe et tout ça, mais elle peut aller assez loin dans son désir sans qu'il y ait sans tout détruire autour d'elle. Elle peut. Et donc c'est ça aussi qui la rend plus douce et plus bienveillante avec un homme qui dans ce contexte-là du coup n'est plus un ennemi. C'est-à-dire, il est plus le principe de destruction, de prédation que ça pouvait être pour sa grand-mère par exemple dont elle parle beaucoup dans le livre. Elle le regarde avec une certaine douceur. C'est comme si elle était dans son époque. Elle était triomphante dans son époque. Elle bénéficiait de tellement de leviers psychologiques, culturels, au moment où lui, social, au moment où lui, comme homme, il subissait le contraire. Il se faisait effacer du western, quoi, comme il le dit lui-même. L'injonction à être un homme aujourd'hui, elle devient très très compliquée, quoi, parce que il faut toujours l'être, mais en revanche pas selon les références qui ont dominé depuis des siècles. Donc comment on fait? Et je crois que elle est historienne dans le livre, et je crois qu'elle le comprend, ça. Elle le condamne pas pour ça. D'ailleurs, il le dit régulièrement. Elle me traite toujours pas de connard. Il comprend pas. Parce que ça le rassurerait d'être un connard. Parce qu'au moins, c'est très très clair. C'est des compartiments de la perception des hommes, de la langue des femmes, qui seraient confortables, qui sont habitables pour lui parce qu'il les connaît. Et elle le traite même pas de connard. Et donc, ça le perturbe encore plus. Parce que, à défaut d'autre chose, on peut au moins être un connard. Bah, il peut même pas faire. Elle lui laisse même pas cette possibilité-là.
Dehors un certain vert, dehors un certain vent, c'est ainsi que se termine votre livre, Maria Pourchet. Merci infiniment. Il vient de paraître aux éditions Fayard et participe à la jungle de la rentrée littéraire. Donc, bonne chance.
Merci beaucoup. Merci pour tout.
L'air froid te glace. l'espace, insolente insouciance. Tu pressens l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche, tendre tonnerre. L'avalanche accélère, rapide et légère.
Et c'est avec l'avalanche de Arthur H. que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian et à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.